Bien, je suis très heureux d'être parmi vous. Je remercie beaucoup la Fondation Brochet, le Cercle de lecture et mon ami Thierry Lombard, grâce à qui je suis ici. Donc, nous sommes aussi dans un lieu prestigieux, un lieu qui peut-être va nous dévoiler en tout cas l'architecture du cerveau, espérons, dans quelques années. Peut-être serons-nous quelques indications sur les tours de la conscience, qui sait, c'est un autre problème à discuter, que je n'ai pas manqué de discuter d'ailleurs avec le directeur de ce projet, M. Makram. Et donc aujourd'hui, essayer de faire la relation entre l'entraînement de l'esprit, les neurosciences, et aussi l'impact qu'un tel entraînement peut avoir dans notre existence et dans la société. Il est clair qu'une société est composée d'un ensemble d'individus comme un parterre de fleurs, est composé de fleurs qui, on ne peut pas, si vous voulez, il serait difficile de se dire, en mettant beaucoup de fleurs, même si elles sont fanées, ça sera joli. Il est certain que si chaque fleur brille de toutes ses couleurs, de sa fraîcheur, l'ensemble également reflétera cette qualité de chacune des personnes. C'est aussi un défi de se demander, suffit-il de se transformer soi-même pour que la société se transforme? Déjà, c'est un bon point de départ. Mais en même temps, il reste toujours qu'il faut trouver les points d'articulation entre la transformation individuelle et la transformation, l'évolution des cultures. Et c'est là, bien sûr, une sorte de défi. Comment peut-on faire que des personnes qui essaient de devenir sincèrement de meilleurs êtres humains, de développer, de cultiver la bienveillance, la considération d'autrui, la force et la paix intérieure, sont-ils simplement mieux dans leur propre existence ou peuvent-ils contribuer également à ce qu'une sorte de point de bascule pour que les cultures changent? D'abord, la question qu'on peut aussi commencer par se poser, est-ce que la transformation individuelle est-elle vraiment possible? Ou est-ce que nous nous faisons des illusions en essayant de cultiver des qualités humaines fondamentales? Peut-être que notre héritage génétique combiné à l'influence des conditions de notre petite enfance, nous enferme dans une sorte de limitation qui fait que nous ne pouvons que nous illusionner quant à la possibilité, effectivement, de développer ces qualités fondamentales. Si c'était le cas, si tout était gravé dans la pierre, que nous soyons à prendre ou à laisser tel que nous sommes, il vaudrait mieux, effectivement, savoir s'accepter tel que nous sommes plutôt que de se révolter contre le mélange d'ombre et de lumière que nous sommes tous. Mais est-ce vraiment le cas? 2500 ans de tradition contemplative dans le bouddhisme nous semblent montrer que, bien sûr, nous avons tous un potentiel de transformation. Nous ne partons pas tous du même point de départ, nous n'avons pas tous les mêmes dispositions, les mêmes inclinations. Mais ceci dit, nous avons tous une considérable marge de manœuvre dans la faculté que nous avons d'actualiser un potentiel qui est en nous, mais qui souvent peut rester dormant. De même que la plupart d'entre nous, en s'y exerçant, peuvent apprendre à courir un certain nombre de kilomètres chaque jour, à jouer d'un instrument de musique, à exceller dans un sport, à jouer aux échecs, etc. Nous ne sommes pas nés en sachant lire et écrire. Tout s'apprend. Nous n'avons généralement guère d'objection à l'idée qu'il faut des années d'études, de formation professionnelle pour acquérir des facultés, des capacités qui sont les nôtres et que nous exerçons dans notre vie de tous les jours. Et ce qui est finalement surprenant, c'est que nous savons tous qu'il faut persévérer dans une certaine discipline, un certain effort pour acquérir ces capacités. Mais lorsqu'il en vient aux qualités premières qui font de nous de bons êtres humains, on se dit, ben, finalement, c'est comme ça. Et on a moins l'impression que les conditions intérieures qui caractérisent nos qualités et nos défauts pourraient se transformer. Nous sous-estimons considérablement le pouvoir de transformation de l'esprit. Et ça, c'est dommage, parce qu'en plaçant tous nos espoirs et nos craintes à l'extérieur de nous-mêmes, dans des conditions extérieures, finalement, sur lesquelles notre contrôle est assez limité, éphémère, souvent illusoire. De plus, l'univers n'est pas une sorte de catalogue dans lequel nous pourrions commander tout ce que nos désirs nous dictent. Et donc, si nous négligeons les conditions intérieures d'un épanouissement, d'un bien-être authentique, de l'altruisme, de la compassion, de la bienveillance, qui nous permettent non seulement nous-mêmes de nous épanouir dans notre existence, mais de mieux contribuer au bien-être des autres et à éradiquer leurs souffrances. Donc, ça serait très dommage de consacrer toute notre énergie à améliorer uniquement ces conditions extérieures. Bien sûr, elles importent. Bien sûr, notre monde souffre encore d'immenses inégalités qui vont d'ailleurs croissant dans la plupart des pays de l'OCDE. Et c'est quelque chose qui nuit fondamentalement à une harmonie durable qu'on espérait pouvoir s'instaurer dans ce monde. Il est évident que nous devons remédier avec toute notre énergie au conflit, à la misère qui demeure, au fait qu'il y a encore 1,5 milliard de personnes qui sont sous le seuil de la pauvreté, à promouvoir l'éducation, à offrir à tous les êtres de cette planète la possibilité d'actualiser le potentiel qui est leur en cette vie. Mais ceci dit, ces efforts que nous devons maintenir au fil du temps ne doivent pas nous amener non plus à négliger le fait que du matin au soir, finalement, c'est notre esprit qui fait l'expérience des choses, qui traduit les circonstances extérieures en bien-être ou en mal-être, cet esprit qui peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Et donc, le laisser simplement dans une sorte de chaos semi-fonctionnel, ce n'est peut-être pas la meilleure façon de mener notre existence. Donc, comment pouvons-nous procéder à ce sujet ? Eh bien, tout d'abord, mieux connaître la façon dont fonctionne notre esprit, comment s'enchaînent nos pensées, connaître les différentes nuances entre au sein de nos émotions. Quand on parle de colère, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une colère malveillante ou est-ce que c'est une juste indignation devant un massacre, devant une injustice, devant quelque chose auquel nous devrions consacrer toute notre énergie afin de remédier à ces problèmes ? Donc l'idée, c'est que finalement, ce que nous sommes est le résultat d'un enchaînement de pensées, d'émotions, instant après instant, qui donne naissance à des humeurs, puis à des traits de caractère. Et de même qu'elles se sont formées pensée après pensée, nous pouvons également les modifier en étant attentifs à la manière dont fonctionne notre esprit, en essayant de cultiver certains aspects états mentaux constructifs, comme l'amour, la bienveillance, la liberté intérieure, et peu à peu essayer de laisser s'amenuiser celles qui nuisent non seulement à autrui, mais à nous-mêmes, à savoir l'arrogance, la haine, l'envie, l'obsession, l'avidité, etc. La jalousie. Donc, cette entreprise, elle est rendue possible simplement parce que le fait que notre esprit est beaucoup plus flexible qu'on le pense. Alors, ça peut paraître au début quelque peu utopique, naïve, peut-être bonne pour quelques ermites qui passent leur temps dans l'Himalaya, mais il se trouve que depuis une trentaine d'années, cela rejoint parfaitement les découvertes des neurosciences les plus récentes. Auparavant, on pensait que le cerveau adulte, une fois formé, était quasiment figé, car il était d'une telle complexité que d'induire des remaniements importants dans ce cerveau allait tout bouleverser et le rendre dysfonctionnel. C'est avéré être entièrement faux. Et en vérité, tout au long de notre existence, notre cerveau peut être transformé. Ce qu'on appelle la neuroplasticité, la faculté que le cerveau a de changer lorsqu'il est exposé soit à des conditions extérieures nouvelles, des conditions extérieures, encore une activité nouvelle, comme d'apprendre à jongler, comme d'apprendre à jouer du violon, ou une activité intérieure, comme de cultiver jour après jour l'attention focalisée, la bienveillance, etc. Et donc, ça a d'abord été montré chez des animaux, chez des oiseaux, qui apprenaient des nouveaux chants à chaque printemps. On a vu qu'ils formaient un très grand nombre de neurones, et peu à peu, on s'est aperçu que c'était pareil chez les êtres humains. Jusqu'à notre mort, il peut se former jusqu'à 30 000 nouveaux neurones par mois, si nous nous attelons à une œuvre particulière. Pour vous donner un exemple bien connu, on a étudié le cerveau des chauffeurs de taxi londoniens, qui, avant de l'invention du GPS, devait apprendre 14 000 rues par cœur. Maintenant, à Paris, c'est tout juste si on arrive à faire passer le nom d'une seule rue. Et ils ont beaucoup de mal, d'ailleurs, à trouver sur leur GPS. Mais ceci dit, À l'époque, donc, quand on a étudié le cerveau de ces chauffeurs de taxi londoniens, on s'est aperçu que la zone du cerveau qui permettait de se représenter la topologie du milieu extérieur était considérablement augmentée en volume, en densité de neurones et de connexions synaptiques. On a vu la même chose chez des personnes qui jouent du violon, chez des gens qui jonglent avec qui apprennent à jongler, etc., etc. En fait, tout ce que nous faisons, d'utile ou d'inutile, mais auquel nous faisons de manière répétitive et au fil du temps, va engendrer de la neuroplasticité. Ça commence dans une zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui en quelque sorte absorbe les données de cette nouveauté auquel nous sommes exposés, et puis ça se répercute dans d'autres régions du cerveau. Une étude récente de l'année dernière, faite en Israël, a montré que déjà au bout de 6 heures d'une pratique d'un entraînement quelconque, on commence déjà à voir au niveau microscopique le début de cette neuroplasticité. Alors évidemment, il y avait là une sorte de terrain fertile de rencontre entre des contemplatifs qui se sont exercés à l'entraînement de l'esprit pendant des milliers d'années et les neuroscientifiques qui maintenant avaient les moyens techniques pour étudier ce phénomène de neuroplasticité. Alors, bien sûr, cette collaboration aurait pu ne pas fonctionner, faute de moyens techniques, mais le progrès en matière des IRM fonctionnels, etc., maintenant permet effectivement de corroborer ce que fait à la première personne quelqu'un qui s'entraîne à quelque chose et de voir quelles sont les corrélations au niveau du cerveau. Et donc, ça a donné naissance à un programme de recherche passionnant qui a été en partie catalysé par l'Institut du Mind and Life, fondé maintenant 27 ans par Francisco Varela, un regretté neuroscientifique chilien qui a aussi travaillé à Harvard et en France, et sous l'égide ou l'inspiration du Dalai Lama qui s'est toujours fort intéressé à la science. Moi-même, j'ai participé assez tôt à ces rencontres. Et puis, en l'an 2000, lors d'une rencontre à Dharamsala, pendant 5 jours avec des scientifiques éminents, sur les émotions destructrices, au milieu de la semaine, le Dalai Lama a dit « C'est très joli tout ça, nos discussions, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment contribuer à la société ?» Donc, il y avait là Richard Davidson, Francisco Varela, Paul Ekman, un des grands spécialistes des émotions. Et l'idée est venue de commencer un programme de recherche sérieux avec les meilleurs scientifiques du moment dans ce domaine particulier, des contemplatifs qui avaient fait entre 10 000 et 60 000 heures de méditation, pour voir si vraiment ça pouvait apporter quelque chose de fructueux dans le domaine de la recherche. Une fois qu'il a été très rapidement clair qu'effectivement, ces entraînements donnaient lieu à des modifications fonctionnelles, structurelles, importantes dans le cerveau, il dit, bon, maintenant, comment contribuer à la société ? Il est évident que tout le monde ne va pas pouvoir consacrer 60 000 heures à la méditation. Donc l'idée, qu'est-ce qui se passe si on en fait 20 minutes par jour, pendant 8 semaines, pendant 2 semaines, pendant 15, etc., etc. Et quelles sont les répercussions peut-être cliniques, physiologiques, sur le cerveau, l'état psychologique, etc., etc. Donc il y a eu de plus en plus de recherches. Et maintenant, il y a chaque année des douzaines de papiers scientifiques dans des revues de haut niveau qui font état de ces recherches dans tous ces domaines, à la fois cliniques, recherches fondamentales, psychologie, etc. Donc je vais partager avec vous, puisque nous sommes aussi dans un lieu de recherche, quelques-unes de ces recherches les plus marquantes et essayer de voir comment justement elles peuvent se répercuter par des bienfaits au niveau de la société. Alors au départ, donc, c'était bien... Vous savez, quand on lance un nouveau domaine de recherche, maintenant on appelle ça peut-être les neurosciences contemplatives, on est toujours très excité à l'idée d'avoir des résultats clairs, marquants, nouveaux, qui sont du domaine de la découverte passionnante, enthousiasmante. Et donc l'idée, c'était bien sûr de commencer avec les sujets qui avaient le plus de chances de montrer ces différences. Donc des méditants expérimentés qui s'étaient consacrés pendant des années à la méditation de façon assidue, qui avaient fait parfois des années de retraite contemplative, parce qu'évidemment, si on ne trouve aucune différence structurelle ou fonctionnelle dans le cerveau ou dans le corps ou dans les neurotransmetteurs ou autres, Évidemment, à ce moment-là, il est bien peu probable qu'on trouve quelque chose chez quelqu'un qui s'exerçait pendant 2 semaines à la méditation. Donc on a convaincu, moi j'étais un des premiers cobayes qui me suis, par curiosité, par enthousiasme, pour aussi, ça faisait une passerelle qui me séduisait entre mon passé scientifique et puis ma pratique contemplative, et donc faire un peu du bêta-testing dans ce domaine de recherche pour établir les protocoles de recherche. Si vous amenez un méditant au laboratoire, qu'est-ce que vous lui dites? Ben voilà, asseyez-vous, rentrez dans un IRM, méditez pendant 1 heure, puis on va voir ce qui se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce qu'on mesure, ce sont des différences. Des différences, il y a des contraintes, techniques qui font que vous ne pouvez pas simplement méditer pendant 1 heure et puis à la fin, on voit ce qui se passe dans un IRM. Il faut des périodes assez courtes. Donc la question, par exemple, est-ce qu'un méditant peut rentrer dans un état de compassion en 15 secondes et puis garder ça à un niveau optimal pendant 2 minutes et puis revenir à un état neutre et recommencer 50 fois de suite? C'est pas ce qu'on fait évidemment dans un ermitage. On passe pas son temps à avoir des montagnes russes entre un état neutre et un état de compassion. On essaie de la maintenir le plus longtemps possible. Il s'est avéré que ça marchait effectivement. Donc tous ces processus d'exploration de la méthodologie pour étudier la méditation, j'ai travaillé pas mal avec Richard Davidson et d'autres chercheurs. Et puis après, nous avons invité des méditants bien meilleurs que moi à venir au labo. Et il y a eu des études, il y a eu une couverture de Time Magazine, les moines tibétains, etc. En fait, au fil des années, il y a eu autant de pratiquants, je dirais laïcs, c'est-à-dire des personnes qui ont une famille, mais qui ont longtemps pratiqué la méditation, hommes et femmes, orientaux et occidentaux. Et donc, ce n'est pas seulement des moines tibétains. Mais au début, c'est vrai que les premiers sujets sont venus du Tibet, du Népal, du Bhoutan, donc de ces très beaux lieux comme celui que vous voyez sous vos yeux, que j'ai photographié il y a quelques jours seulement dans l'est du Tibet. Ici, voilà l'Everest. Donc, il est clair que tous ces lieux sont très propices à la méditation. C'est plus tranquille que de méditer dans les embouteillages. Voilà ce que je vois le matin de mon ermitage au Népal. Et évidemment, le paysage intérieur et extérieur se mêlent. La méditation est souvent aussi bien au dehors, dans la beauté de la nature, qu'à l'intérieur, dans la simplicité de votre esprit. Quelques images encore de ce lieu. Voilà un lieu parfait pour la méditation. C'est l'antre du tigre au Bhoutan. Il n'y a strictement rien d'autre à faire que de méditer, d'ailleurs. Il n'y a pas de supermarché, pas de cinéma. Et donc, vous êtes très tranquille. Et si la méditation ne vous plaît pas, il vaut mieux aller chercher ailleurs. Donc, voilà une de ces rencontres de l'Institut Mind and Life. Vous voyez ici le Dalai Lama avec Richard Davidson, un philosophe de la conscience, Evan Thompson. Et de très prestigieux chercheurs sont venus, au fil des années, participer à ces rencontres qui durent jusqu'à 5 jours, toute la journée. Le dernier s'est fait sur le phénomène de l'addiction. Et Nora Volkoff, qui est en charge de tout le programme d'addiction à l'Institut de la Santé, au ministère de la Santé aux États-Unis, au NIH, est venue avec d'autres chercheurs éminents. D'ailleurs, lui-même est très engagé dans ses conversations. Il pose beaucoup de questions extrêmement pointues aux chercheurs, qui toujours s'émerveillent de la vivacité de son esprit et de la qualité de ses questions. Francisco Varela, qui a été un peu l'initiateur de la neurophénoménologie, aussi des neurosciences contemplatives, et qui malheureusement est mort prématurément, mais qui nous inspire toujours. Alors, les cobayes qui ont été invités dans ces labos, ce n'étaient pas bien sûr les très grands maîtres spirituels comme le Dalai Lama ou ici l'un de mes maîtres, Diego Kensé Rinpoché, mais leurs disciples. On ne va pas demander à un si grand maître de passer son temps dans un IRM avec 250 électrodes sur la tête. Je crois que c'est une sorte de signe de respect que de les laisser poursuivre leurs activités pour le bien des êtres en paix. Kangyur Rinpoché, un autre grand maître près de qui j'ai vécu pendant des années, il y a aussi des femmes qui sont des grandes méditantes. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a autant de sujets hommes et femmes qui ont participé à ces recherches. Et donc, ce n'est pas, encore une fois, seulement des moines tibétains. Donc, vous voilà, avec 256 électrodes, ici à Madison. Donc, en gros, il y a plusieurs manières d'aborder les effets de la méditation ou de l'entraînement de l'esprit. C'est un mot peut-être plus correct. La méditation, c'est un mot un petit peu qu'il faudrait peut-être démystifier parce qu'on dit méditation, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? vider son esprit et relaxer. Ben, vous n'allez pas aller très loin. D'abord parce que si vous videz votre esprit, il ne va pas rester vide très longtemps. Et ensuite, parce que ce n'est pas ça la méditation. Étymologiquement, ça veut dire cultiver certaines qualités, ou cultiver une plus grande familiarité avec la façon dont notre esprit fonctionne, mieux comprendre, cultiver, etc. Donc ce n'est pas simplement essayer de faire le vide sous un manguier et attendre que quelque chose se passe. Il y a aussi l'IRM fonctionnel, ici Mingyur Rinpoche, un autre lama tibétain, et il a caractérisé l'IRM comme ayant quatre qualités. Il fait froid, c'est sombre, c'est bruyant et c'est étroit. Et en plus, quand vous êtes allongé, alors que vous êtes arrivé la veille du Népal avec un jet lag de 12 heures, le problème c'est aussi de ne pas s'endormir. Généralement, on reste entre une ou deux heures dans un IRM, donc aussi, ce n'est pas très confortable. Donc voilà, la première fois que j'ai fait ça, en 2000, avec Richie Davidson, je sors de 2h30 d'IRM, donc Richie est très soulagé que le méditant ait survécu à l'épreuve. Alors, je vais vous donner un des exemples d'une recherche qui a effectivement un potentiel assez extraordinaire de contribuer quelque chose à la société. Pendant longtemps, donc, dans le bouddhisme, on médite souvent, on essaie de cultiver deux qualités fondamentales que sont l'amour altruiste, c'est-à-dire le souhait que tous les êtres soient heureux et trouvent les causes du bonheur. Et puis, qu'est-ce que devient cet amour altruiste quand il est confronté à la souffrance? Il devient ce que nous appelons la compassion. C'est une définition particulière de la compassion, à savoir le souhait que les êtres soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Donc on peut dire que l'amour altruiste, la bienveillance et l'état mental de base qui devrait s'adresser à tous les êtres, quels qu'ils soient, et qui se cristallise sous la forme de compassion lorsqu'il est confronté à la souffrance, et certainement de nos jours, nous sommes souvent confrontés à la souffrance. Et beaucoup de scientifiques au début me demandaient, mais est-ce qu'il faut souffrir avec la personne au moment où vous faites ça? J'étais un peu décontenancé parce que parfois oui, parfois non, c'est parfois nécessaire, parfois ce n'est pas nécessaire. Et peu à peu, je me suis familiarisé avec une notion qui s'appelle l'empathie. Je connaissais vaguement évidemment le sens du nom, mais plus précisément, ce n'est pas un mot qui se trouve dans le bouddhisme, et donc plus précisément, faire la distinction entre l'amour altruiste, l'empathie et la compassion. Donc l'empathie, qu'est-ce que c'est en général? Il y a deux formes. L'empathie affective, si quelqu'un rentre avec un grand sourire, avant même de savoir pourquoi il sourit ou il est joyeux, déjà vous commencez à vous sentir un petit peu plus joyeux et souriant. Une sorte de résonance affective. Si quelqu'un est triste ou si quelqu'un souffre, en quelque sorte vous souffrez de sa souffrance. Et votre souffrance est véritable. Ça a été étudié justement par Tania Singer, avec qui j'ai beaucoup collaboré, qui est maintenant directrice de l'Institut Max Planck à Leipzig. Elle a montré dans le cerveau que quand quelqu'un, par exemple, qui s'occupe de quelqu'un qui est en grande souffrance, il souffre avec cette personne par résonance empathique, les réseaux de la souffrance, de la vraie souffrance, sont activés dans son cerveau. Donc vous souffrez vraiment de la souffrance de l'autre. Un autre aspect, c'est l'empathie cognitive, qui consiste à essayer de se représenter mentalement, par la théorie de l'esprit, ce que l'autre peut ressentir. Ça ne veut pas dire que vous partagez ce sentiment. Si quelqu'un, par exemple, est paniqué dans un avion, vous pouvez être extrêmement calme, mais vous représentez ce qu'elle peut ressentir. Ce n'est pas forcément ce que vous ressentiriez à sa place, qui est aussi une autre forme d'empathie cognitive, mais qu'est-ce qu'elle ressent, au lieu de l'ignorer. Donc l'empathie, finalement, c'est une sorte de signal qui nous renseigne sur l'état de la personne. Est-elle joyeuse, triste, en paix, tourmentée? Un signal d'alarme, mais un signal d'alarme ne doit pas être plus qu'un signal d'alarme qui nous renseigne, qui nous avertit, dans le cas de la souffrance notamment, que nous devons ensuite manifester de la considération pour cette personne. Et il se trouve qu'on parle beaucoup d'empathie de nos jours, un peu à toutes les sauces, mais qu'il y a aussi, on observe dans le milieu notamment du soin. Par exemple, vous voyez cette femme ici malade que nous avons soignée au Tibet, tuberculose osseuse, alitée pendant très longtemps. Maintenant, heureusement, nous l'avons pu la sauver. Mais ceci dit, quand on prend soin de personnes qui souffrent, imaginez que vous ne disposiez comme ressource émotionnelle que de cette empathie. Donc, un malade, a priori, sauf dans des cas extrêmement rares, soit il guérit, soit il meurt en gros, mais il ne va pas souffrir intensément pendant 20 ans. C'est très rare. Malheureusement, ça existe, mais c'est très rare. Mais imaginez quelqu'un qui s'occupe de ces personnes en souffrance, qui change, mais elle-même reste. Et donc, jour après jour, elle souffre de la souffrance d'autrui. C'est trop demandé que de souffrir ainsi jour après jour. Donc, qu'est-ce qui se passe ? 60% de tout le personnel médical aux États-Unis, il a été montré, vont souffrir ou ont souffert du burn-out dans leur carrière. Le burn-out, c'est l'épuisement émotionnel. On ne supporte plus, on ne peut plus gérer cette souffrance que l'on partage avec autrui au travers de l'empathie. Il y a d'autres personnes qui maintenant conseilleront de se distancer émotionnellement de ceux qui souffrent pour justement se protéger et pouvoir continuer à les aider. Mais ce n'est pas idéal de se distancer émotionnellement de ceux qu'on veut aider, bien sûr. D'autres, il arrive, naturellement, ont cette espèce de chaleur humaine. J'ai rencontré une infirmière qui m'a dit, j'ose pas le dire à mes collègues, mais je me sens tellement bien quand j'aide, quand je m'occupe de ces malades qui souffrent. Il y a quelque chose de très constructif qui naît en moi. Donc ce qu'elle avait trouvé spontanément, c'est que cette chaleur humaine, cette tendresse, ce soin, cette affection, était le baume, l'antidote au burn-out. Donc, muni de toutes ces réflexions, avec Tania Singer, nous avons essayé d'étudier à Leipzig et ailleurs, de distinguer entre l'empathie, l'amour altruiste, la compassion, et il s'est avéré qu'effectivement, l'empathie laissée à elle-même conduit très vite au burn-out. Moi, j'ai fait ça, elle m'a demandé de faire pendant une heure, de ne penser qu'à la souffrance d'autrui, laisser tomber la compassion, laisser tomber l'amour altruiste, encore et encore, encore résonner avec des images de grande souffrance. Je revenais d'un lieu au Tibet où nous avions aidé, il y a eu un tremblement de terre où il y a plusieurs milliers de personnes qui sont mortes, et les scènes tragiques revenaient constamment à mon esprit. Et en une heure, je sentais un burn-out intense, un épuisement émotionnel devant cette souffrance. Et puis au bout d'une heure, elle m'a dit, maintenant, tu peux passer à ta méditation sur la compassion. Et à ce moment-là, c'était comme une sorte de, comment dire, comme si un barrage se brisait et tous ces flots de pensées chaleureuses, aimantes, se déversaient mentalement, bien sûr, vers ces images que j'avais, et ça changeait complètement le paysage intérieur. Donc ça peut paraître extrêmement une description très qualitative, mais il se trouve que ça correspond très précisément à des mécanismes très différents dans le cerveau. Et qu'en fait, l'empathie livrée à elle-même, c'est comme une pompe électrique qui tourne toute seule sans eau et qui brûle. Il faut cet espace de bonté aimante. Donc, fort de tout ça, nous avons poursuivi les recherches et récemment, un papier a été publié qui montre que les régions du cerveau qui sont liées à l'empathie sont différentes de celles liées à l'amour altruiste et à la compassion. Et à cause de ça, Tania Singer a maintenant obtenu de la Commission européenne, il y a un an et demi, un budget de plusieurs millions d'euros pour étudier 300 sujets sur un an qui vont, par étapes, s'entraîner à l'empathie, s'entraîner à la compassion, etc., etc. Et les résultats préliminaires montrent de façon très remarquable que ceux à qui on demande uniquement pendant une dizaine de jours de ne faire que de l'empathie se trouvent dans une position émotionnelle très difficile. Ils voient la souffrance partout, ils sont souvent en pleurs, etc., etc. Et que ceux, au contraire, qui ont allié à ça une méditation sur l'amour altruiste, n'ont pas ces phénomènes, abordent la souffrance de façon beaucoup plus constructive, avec des émotions positives, on pourrait dire. Non pas que la souffrance en elle-même est positive, mais que la façon de l'aborder est positive. Pour donner un simple exemple, imaginez une mère très préoccupée par le sort de son enfant, qui est malade, qui souffre, et si elle fait les 100 pas dans les couloirs de l'hôpital, totalement en détresse empathique, ce n'est pas ça qui va aider l'enfant. Il vaut beaucoup mieux qu'elle soit à son chevet, qu'elle lui prenne la main, qu'elle le réconforte, et donc cet amour qui va pallier à sa détresse empathique et lui permettre d'aider. Donc vous voyez, il a une possibilité là d'une application dans le monde de la santé, en aidant les médecins, les aides-soignants, tous ceux qui s'occupent des personnes en difficulté, de cultiver de façon simple, séculière bien sûr, ses facultés de bonté aimante. C'est ce que fait en ce moment Tania Singer. Elle a ce programme qu'elle appelle Ressources. Une fois que les papiers auront été publiés, elle va essayer d'avoir une application pour la mettre à disposition du ministère de la Santé en Allemagne. Donc c'est pour vous dire que tout ça naît en nous, tout d'abord de l'amour parental, mais qu'on peut ensuite étendre à d'autres êtres. Donc ce que l'évolution nous a donné avec l'amour parental, nous pouvons l'étendre à nos proches, et puis au-delà du cercle de nos proches, si possible, à tous les êtres. c'est-à-dire pas réservé aux êtres humains. Oui, l'amour parental ne m'a même pas allé au travers des espèces. Voilà cette tigresse dans le zoo de Calcutta qui a élevé des porcelets orphelins et tout semble se passer très bien. On trouve aussi tout vous voyez, l'empathie liée à l'amour, à la bienveillance, aux soins. Et ça se trouve également chez les animaux, bien sûr. C'est pas tombé du ciel. Alors, c'est pour vous montrer un peu ces applications, mais les premières grandes études ont été faites à l'université de Madison et aussi sur la méditation, sur l'amour altruiste. Et il y a un papier qui a été un des plus téléchargés pour le PNAS, les Proceedings of National Academy of Science, qui a montré pour la première fois que lorsque des militants s'engageaient sur cette méditation sur la compassion, il y avait une activation dans les fréquences gamma de certaines aires du cerveau liées aux émotions positives qui était largement plus considérable que ce qui avait jamais été décrit en neurosciences. Pour vous donner ici un exemple, vous voyez en bas un groupe témoin qui s'est entraîné pendant une semaine à la méditation. La ligne rose est au repos, la ligne bleue en méditation, il ne se passe pas grand-chose. Tandis que chez les méditants expérimentés, au repos, ben, ils sont au repos. Tandis que quand ils s'engagent sur la méditation sur l'amour altruiste, il y a une augmentation énorme dans les amplitudes gamma, ça c'est l'électroencéphalogramme. Alors, si vous voyez, il y a des différences, certes, entre pratiquants, entre méditants. Certains ont des augmentations beaucoup plus considérables que d'autres, mais par rapport, vous voyez, à un groupe témoin, la différence est évidemment évidente. Et en plus, on s'est aperçu que cette magnitude maximale de l'activation des zones gamma était proportionnelle au nombre d'heures approximativement estimées. Bien sûr, on n'est pas là avec des compteurs tous les jours à savoir combien d'heures on a médité, mais en gros, elle était proportionnelle au temps consacré à la pratique. Donc, c'est bien un entraînement qui, peu à peu, de plus en plus, fait son effet. Alors, si vous regardez maintenant en imagerie cérébrale, vous voyez des méditants ici au repos. Lorsqu'ils s'engagent sur la méditation sur l'amour altruiste, certaines zones liées à le sentiment d'affiliation, à l'amour parental, aux émotions positives sont activées. Chez les sujets novices qu'on a fait pendant une semaine, rien ne se passe au repos, rien ne se passe en méditation. Ce n'est pas qu'ils font rien, mais ce n'est pas suffisamment intense pour déclencher des activités. Alors, on a même demandé à des méditants s'ils pouvaient moduler l'intensité de leur compassion. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, 30% de compassion, 60% de compassion. Mais en fait, subjectivement, on peut bien sûr faire venir un sentiment ou un état mental un petit peu, puis un peu plus fort, et puis du mieux qu'on peut. Nous avons fait ça à Maastricht, en IRM fonctionnel en temps réel. Et effectivement, lorsque vous demandez, ça se produit sur une vingtaine d'heures, donc on accumule les données, on voit que quand les méditants, on leur demande de faire 30% d'amour altruiste ou de bonté ou de compassion vis-à-vis de la souffrance des autres, ça correspond à peu près à 30%, 60%, 90%. Donc ça montre la faculté de gérer exactement les états mentaux, ce qui est une des caractéristiques donc, de la maîtrise de l'esprit. On a pu faire ça également pour quelque chose auquel les méditants ne s'entraînent pas habituellement, donc c'est le report d'une capacité à quelque chose d'autre, à savoir d'imaginer qu'ils avaient une douleur physique sans l'avoir. Et en imaginant simplement avec une forte concentration qu'ils ont une douleur physique, comme une brûlure sur la main, ils activent les réseaux de la douleur dans le cerveau, alors qu'en fait, il n'y a pas de douleur. Ça montre effectivement le pouvoir de la concentration sur donc, les états du cerveau. Alors tout ça demande bien sûr une attention soutenue. Si vous allez méditer sur la compassion, mais votre esprit fait le tour du monde en imagination, vous n'allez méditer sur rien du tout, à part être distrait. Et une étude récente a montré que c'est Daniel Gilbert qui a fait ça à Harvard, en demandant à des gens 10 fois par jour sur un téléphone portable de poser 3 questions. Est-ce que votre esprit est en ce moment sur ce que vous faites? Et comment vous sentez-vous en bien-être? C'est donc 2 questions. Il s'est avéré que 45% du temps, les gens pensaient à autre chose que ce qu'ils faisaient. Et que ce temps de distraction, donc, était considéré comme étant une qualité moindre de bien-être. Donc, en gros, nous sommes très souvent distraits. Donc, est-ce qu'on peut cultiver l'attention? William James disait, le fondateur de la psychologie moderne, nous ne pouvons pas conserver notre attention plus de quelques minutes sur quelque chose. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. voyez ici une courbe normale d'attention. Je ne vous décris pas en détail le processus, mais enfin, ça demande de faire une tâche très précise plusieurs fois par seconde. Les méditants expérimentés, aucun problème. 45 minutes, certains n'ont aucune erreur sur 1000 réponses qu'on doit faire très rapidement sur un ordinateur. Et l'un d'entre eux, celui-ci, a dit à la fin, « Quel est le problème ? Est-ce que vous voulez que je continue ?» Il était parti pour toute la journée, ça ne le dérangeait pas. Alors d'autres choses, par exemple, vous savez que souvent notre attention est attirée par quelque chose, donc notre attention va coller à la chose, l'objet de notre attention, et puis il faut l'en décoller pour revenir à de nouveau être prêt à faire attention à autre chose. C'est un petit peu, donc vous n'êtes pas attentif à certaines choses qui se sont passées entre-temps. C'est un peu comme vous clignez les yeux, pendant le temps du clignement, vous ne voyez pas ce qui se passe. Donc c'est ce qu'on appelle un clignement, ou attentional blink, c'est une sorte de clignement de l'attention. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on montre une vingtaine d'images par seconde, et il y a parmi ces images neutres, parfois un véhicule et ensuite un animal. Et on vous demande, regardez si vous voyez un véhicule, un avion ou un bateau. Et après, on vous demande, avez-vous vu aussi un animal ? Et il s'avère que si l'animal est très près du véhicule, généralement les gens ne le voient pas, parce qu'ils sont collés au véhicule, il faut qu'ils s'en décollent en quelque sorte, et moi, je veux dire, au point de vue de l'attention, et donc ils voient. Donc on s'est dit, est-ce que les méditants peuvent avoir une vision plus claire des choses ? Il s'avérait que oui, à savoir, je vais vous faire une petite expérience ici, ce n'est pas avec des images, mais vous allez voir des lettres et des chiffres. Donc, regardez un chiffre et je vais vous demander ce que vous avez vu. Donc, attention, ça va commencer. Qui a vu un 3 ? Qui a vu aussi un 7 ? Pas mal. Disons environ un quart de la personne. Donc, le 7 est venu assez près du 3 et donc il y a eu une sorte de perte d'attention pendant un certain temps. Alors, si vous prenez des méditants maintenant, voyez que lorsqu'ils sont dans une méditation qu'on appelle la présence ouverte, où ils voient les choses de façon très panoramique, sans coller aux choses, mais en même temps étant extrêmement présent, instant après instant. Et par rapport à un état neutre où ils ne font rien, vous voyez qu'un état méditatif réduit considérablement le clignement attentionnel. Il y avait même une personne qui en avait zéro. Il voyait tout le temps. Donc c'est pas mal, il avait 65 ans en plus, c'est encourageant en ce qui me concerne. Alors une autre chose, par exemple, pour vous donner le nombre de... On s'amuse beaucoup en faisant de la recherche comme ça, parce qu'on va dans tous les labos, on fait des choses très amusantes, ensuite on s'en va, et pendant des mois après, ils doivent éplucher les données, etc. Et donc on a le beau rôle dans tout ça. Donc il y a une chose aussi qu'avec Paul Ekman, on s'est demandé, c'est qu'il y a une réaction extrêmement instinctive, qui est le sursaut. S'il y a une explosion qui se passe dans un coin de la pièce, tout le monde sursaute. On s'est demandé pourquoi. Souvent, c'est lié à... Les gens sursautent plus quand ils ont des troubles psychologiques, par exemple. Mais c'est aussi lié à l'attention. Parce que si vous sursautez, qu'est-ce qui se passe s'il y a une explosion ? Vous êtes ramené à l'instant présent, parce qu'il faut faire quelque chose, c'est peut-être dangereux. Donc, si vous êtes en train de rêvasser, plus vous rêvassez, plus vous allez sursauter, parce que vous revenez soudainement d'un monde d'imagination à l'instant présent, la réalité. On s'est dit peut-être que les méditants, s'ils restent toujours dans l'instant présent, il ne va pas se passer grand-chose. Donc c'était notre prédiction du point de vue des méditants. Et personnellement, quand je me suis prêté à ça, j'ai même prédit quel type de méditation allait marcher. Non pas l'attention focalisée, mais cette présence ouverte, qui est parfaitement limpide, parfaitement présente, un peu comme un vaste espace, mais qui n'est pas fixé sur quelque chose. Donc en fait, on n'a pas besoin de ramener à l'instant présent parce qu'on y est déjà. Est-ce que ça marche ? Donc effectivement, je vous montrerai un petit film maintenant. Alors d'abord, on mesure l'activité somatique. On a des senseurs partout, ils vous filent, la moindre expression faciale. Vous êtes sur une chaise avec des ressorts pour mesurer à quel point vous sautez. Donc vous voyez, dans cet état de l'open présence, la présence ouverte, vous avez une activation somatique générale, les mouvements du visage, du corps, bien moindre que dans l'attention focalisée et bien moindre encore que dans la distraction. Alors pour un méditant, se distraire, ça voulait dire... Je m'imaginais en train de conduire au Tibet sur les routes chaotiques pour aller voir nos écoles et nos cliniques. Et au moment où l'explosion est venue, évidemment, j'ai sursauté. Alors, si vous regardez maintenant l'influence de l'explosion qui est très forte, c'est comme deux détonations de revolver à 50 cm de vos oreilles. C'est très, très fort. Sur le rythme cardiaque, eh bien, dans la présence ouverte, le rythme cardiaque ne bouge pas. sont focalisées, elles bougent un peu plus, et on vous êtes distrait, ben votre cœur se met à battre plus vite. Alors, je vous montrer un exemple entre cet humble méditant qui est devant vous et puis d'autres sujets considérés comme normaux. Donc, ces deux détonations successives, ça fait beaucoup plus de bruit que ce que vous allez entendre, hein, je vous signale. Allons-y. Donc vous voyez un petit clignement d'œil. Et vous voyez ce qui se passe normalement. C'est pour l'Ekman qui regarde.
Oh, Jesus. God.
C'est le même volume, hein, je vous signale. Donc deux choses. Tout d'abord, la réaction très forte. Et ensuite, après, soulagement de soulagement. Donc, vous voyez, d'abord, on est ramené à la réalité présente. On voit qu'il n'y a rien de vraiment dangereux. Vous voyez, la différence est quand même assez considérable. Bon. Alors, ceci dit, maintenant, est-ce que ça marche pour des gens qui font une semaine, deux semaines, trois semaines de méditation? Alors, c'était intéressant, évidemment, pour la société, c'est que la réponse est maintenant oui. Il y a des centaines d'études, maintenant, depuis 15 ans, qui ont montré ça. Voici une étude qui montre pour des personnes qui ont fait 8 semaines de méditation de réduction du stress par la pleine conscience, la technique de John Kabat-Zinn qui est utilisée maintenant dans plusieurs centaines d'hôpitaux dans le monde, notamment aux États-Unis. Et il montre qu'en l'espace de ces quelques semaines, la densité de neurones dans l'hippocampe, qui est cette région qui assimile la nouveauté, est considérablement augmentée par rapport à un groupe témoin. Donc c'est des gens pris au hasard, des volontaires qui sont venus au labo. Un groupe a été réparti, voilà, vous méditez, vous ne méditez pas, tiré au sort. Donc une étude faite correctement. Et maintenant, une autre étude, 2 semaines seulement, 30 minutes par jour sur la compassion. Et on voit qu'au bout de ces 2 semaines, si on mesure le comportement prosocial de ce groupe, il est nettement amélioré. Et ce n'est pas simplement le comportement. On voit en 2 semaines déjà une réduction décelable de la densité, de la taille de l'amygdale, qui est une aire du cerveau liée aux réactions très fortes liées à la colère, à l'agressivité, à la réactivité émotionnelle. En 2 semaines seulement, vous voyez la différence. Alors, une autre étude qui a été faite dans une entreprise de biotechnologie à Madison, 3 mois, 20 minutes par jour également, et vous voyez au bout de 3 mois, pour le groupe qui a été tiré au sort pour faire de la méditation, réduction notamment de l'anxiété, c'était le but évidemment de réduire le stress. Mais non seulement ça, on leur a donné un vaccin contre la grippe, et on a mesuré leurs anticorps. Et chez les méditants, il y avait beaucoup plus d'anticorps, donc un système immunologique beaucoup plus robuste que chez les non-méditants. Donc il y a toutes sortes d'applications. Mesure du cortisol, qui indique aussi le stress, vous voyez, par rapport au groupe contrôle et des méditants. Donc réduction du stress, effectivement, peut se mesurer au niveau physiologique. On a même mesuré, c'était Linda Carson qui a fait ça au Canada, la réduction de l'hypertension en 8 semaines de méditation sur la pleine conscience, également 20 minutes par jour. Il y a un groupe témoin ici, et puis le groupe qui a fait ce MBSR, réduction de 15 mm de mercure, ce qui n'est pas le cas dans le groupe témoin. Récemment également, une étude a été faite sur la télomérase. Alors pour vous dire, le vieillissement est en partie lié à la diminution. Au bout de nos chromosomes, nous avons un petit filament, au lieu que l'ADN soit en double hélice, un simple filament d'ADN. Et à chaque division cellulaire, il se réduit en taille. Et lorsqu'il est trop réduit, la cellule cesse de se diviser et tombe en sénescence. Il y a une enzyme qui protège les télomères, qu'on appelle la télomérase. Et il s'est avéré qu'on sait que des conditions de vie extrêmement stressantes diminuent la télomérase, donc augmentent le vieillissement. Là, 3 mois de méditation, vous voyez que le groupe qui a fait cette retraite méditative avait une télomérase plus active, et donc on peut imaginer que ça soit une bonne chose pour ralentir le vieillissement. Autre chose, c'est un peu compliqué, mais l'idée c'était aussi, est-ce que, vous savez, on peut changer de 2 façons différentes. D'une part, le cerveau change sous l'entraînement, ce qu'on appelle la neuroplasticité, mais aussi on peut changer d'une autre façon, à savoir nous avons un héritage génétique qui est un peu comme une carte de, d'architecte, c'est-à-dire on veut dessiner une maison, mais l'exécution de cette carte, ce que vous rappelez l'épigénétique, vous pouvez décider de construire votre maison différemment. Ou encore, c'est donc l'expression ou la non-expression des gènes dont vous avez hérité. Imaginez dans ce bâtiment, vous ayez 10 000 ampoules électriques. Ce n'est pas la même chose s'il y en a 100 qui sont allumées ou 10 000 qui sont allumées. Et donc, c'est ça la différence. Et on s'est aperçu que les conditions de l'enfance et d'autres conditions peuvent influencer considérablement sur l'expression des gènes. Des personnes, par exemple, qui ont subi des sévices dans leur petite enfance, ils ont une méthylation différente de leurs gènes, c'est-à-dire qu'ils régulent cet phénomène épigénétique qui fait qu'ils sont plus susceptibles à la dépression ou au suicide 20 ans plus tard. Donc, l'idée, c'était évidemment, est-ce que l'entraînement de l'esprit peut jouer sur l'épigénétique. Et cette étude préliminaire, publiée par Perla Kalimann et Richard Davidson, aussi à Madison et à Madrid, a montré qu'en 8 heures de méditation, vous voyez une différence nette de l'expression de certains gènes ici, qui sont liés au stress, c'est ceux-là qui ont été choisis, simplement 8 heures de méditation. Donc on peut aussi jouer sur l'expression de nos gènes, ce qui fait une différence considérable. Dans toutes sortes de domaines. Alors pour revenir à l'application dans la société, je n'ai pas très bien suivi la pendule, maintenant 10 minutes. Ah, ça va très bien. Donc l'idée, c'est voilà, ça c'est très joli, dans les labos, dans les ermitages. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les enfants de 4-5 ans dans une école maternelle? Ça, c'est une bonne question. Alors c'est ce qu'a fait Richard Davidson, qui fait plein de choses très intéressantes. Et donc ils ont pris une école maternelle à Madison, avec plusieurs écoles maternelles, dans des quartiers un peu difficiles. Et ils ont fait un programme de 10 semaines, à raison de 20 minutes 3 fois par semaine. Un programme d'abord lié pendant 5 semaines sur l'attention, la pleine conscience, la conscience des émotions, la conscience des gestes, etc., etc. Ensuite, 5 semaines liées davantage à la bienveillance, la gratitude, faire des choses ensemble, planter les graines de l'amitié qui vont pousser pendant 10 semaines, puis après chacun donne à l'autre les plantes qui ont poussé. On leur dit, voilà, le soin que vous devez accorder aux plantes, c'est aussi le soin que vous devez accorder à l'amitié. Ben, tout un programme, il y a un petit manuel d'une centaine de pages. Les éducateurs sont formés et ça se fait pendant 10 semaines. Les enfants adorent ça, ils disent pourquoi vous ne venez pas tous les jours, etc., etc. Donc ça marche très bien. Alors par exemple ici, c'est pour la respiration attentive. Donc les enfants sont allongés, ils ont un petit caillou, un ours en peluche et doivent observer le mouvement du galet sur leur poitrine et être attentif comme ça pendant 5 minutes. Donc tout ça se passe très bien. Alors ensuite, on s'est dit, bon, on va essayer d'évaluer un peu cela. Qu'est-ce que ça va donner? Donc on a fait une évaluation de leurs comportements prosociaux. On a demandé à la fois aux scientifiques, aux éducateurs et aux parents d'évaluer les comportements prosociaux des enfants, c'est-à-dire à quel point ils sont capricieux, ils se disputent, ils se réconcilient facilement ou non, etc., etc. Et on voit qu'il y a une différence très nette dans le groupe qui a suivi cette intervention que dans un autre groupe d'enfants. Alors depuis, cette étude a été agrandie à d'autres, à un plus grand nombre d'écoles, et donc des papiers vont bientôt être publiés. Mais vient alors le test ultime du point de vue scientifique, c'est le test des autocollants. C'est un test qui ne pardonne pas, qui donne la vérité tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? On détermine avant l'intervention pour chaque enfant de la classe quelle est sa meilleure amie, sa moins bonne amie, la petite fille qu'elle ne peut pas voir en peinture, et on met également sur une troisième enveloppe la photo d'un enfant ou l'image d'un enfant inconnu et l'image d'un enfant malade. Et on dit aux enfants, voilà, vous avez 50 autocollants, il faut les donner. Et vous les mettez dans l'enveloppe que vous voulez. Avant l'intervention, comme vous pouvez l'imaginer, ils donnent quasiment tout à leur meilleur ami. Alors on se dit, bon, l'enfant de 4-5 ans, c'est une intervention qui est un peu ludique, qu'est-ce que ça peut bien faire? On sait bien que les discriminations entre mon groupe et l'autre groupe, à quel point c'est fort dans l'espèce humaine, oh, qu'est-ce que ça va faire? Franchement, on ne s'attend pas à grand-chose. Eh bien, de fait, vous voyez, ça a quasiment nivelé les discriminations. Il donne, au bout de 10 semaines, autant d'autocollants à l'enfant qu'il préférait qu'à celui qu'il ne peut pas voir en peinture, et aussi à un enfant inconnu, un enfant malade. Donc, si vous voyez comment il y a à peu de coups, en si peu de temps, et il s'est avéré que 6 mois plus tard, les effets persistaient. Et donc maintenant, l'étude va être agrandie considérablement parce que ça a un potentiel extraordinaire. Si on peut ainsi gommer ces discriminations que nous faisons constamment entre sexes, entre classes sociales, entre religions, entre races, qui sont tellement délétères pour nos sociétés, on voit que l'aboutissement d'une collaboration entre contemplatifs, éducateurs, neuroscientifiques, psychologues sociaux, qui peu à peu proposent ce genre de curriculum, le met en œuvre, effectivement, si ça donne de tels résultats, c'est extrêmement encourageant pour la contribution qu'on peut faire à la société. Maintenant, ça commence à être reconnu. La couverture de Time Magazine sur les premiers travaux représentait une belle blonde en train de léviter sur une plage. C'est un tout petit peu plus sérieux maintenant, mais il reste encore à faire. Donc voilà les moines qui s'échappent du laboratoire. Donc vous voyez, en essence, ce que j'ai pu partager avec vous, il est assez clair que la transformation individuelle est possible. La vie de ces contemplatifs l'atteste, mais aussi maintenant la collaboration avec les neurosciences, avec la psychologie, avec les effets cliniques. Le nombre d'études cliniques liées à la réduction du stress par la pleine conscience. Et maintenant, nous essayons d'ajouter toujours cette composante de bienveillance. Personnellement, je préfère parler de caring mindfulness, la pleine conscience bienveillante. Parce que vous savez, un tireur d'élite, il peut être extrêmement en pleine conscience, mais bon, il y a un petit problème éthique de ce côté-là. On va voir des psychopathes extrêmement attentifs qui réussissent beaucoup, mais pas toujours pour le bien d'autrui. Donc, si vous introduisez cette notion de caring mindfulness, de bienveillance, d'attention en pleine conscience bienveillante, vous éliminez de tels risques de déviation. Dans les années 90, il y avait environ 7 ou 8 papiers scientifiques par an. L'année dernière, il y en a eu 400. Applications cliniques, sur le psoriasis, etc. etc. Bon. Donc, ça montre que c'est vraiment un domaine d'investigation qui est en plein essor. Alors, pour revenir aussi à la société, et personnellement, à ce quoi je consacre une bonne partie de mon existence, on pourrait dire que c'est très joli, vous avez des scientifiques dans leur labo, vous avez des méditants dans leurs ermitages, bon, ils contribuent un petit peu à la société, mais quand même, malgré tout, il y a beaucoup à faire dans ce monde. Donc, il est clair qu'une compassion sans sagesse est aveugle, mais une compassion sans action est quelque peu stérile. Donc, nous sommes tous efforcés, également dans notre existence, d'essayer de nous mettre au service des autres, en bonne partie grâce à cette transformation préliminaire que nous avons essayé d'accomplir en nous-mêmes. Et donc, puisque c'est aussi ce qui m'amène à voyager beaucoup de par le monde, je voulais juste partager un peu les activités que nous faisons, puisqu'également la Fondation Lombardier et Philanthropia soutiennent depuis très longtemps ces projets. Donc, quelques projets. Karuna, ça veut dire compassion. Au début, je voulais appeler ça compassion en action. En France, on me dit, ah non, pas du tout, ça fait trop religieux. Karuna, ça veut dire la même chose, mais personne ne le sait. Donc, ça passe. Donc, nous consacrons à l'éducation, à la santé, aux services sociaux. Parfois, on construit même des ponts. Au Népal, et c'est une clinique qui traite maintenant 35 000 patients par an, des soins palliatifs. Un cabinet dentaire, soins palliatifs aussi à domicile, on s'occupe des personnes handicapées. En Inde, nous avons maintenant une clinique mobile qui va dans 19 villages où viennent des malades de 190 villages, des personnes extrêmement pauvres qui n'allaient simplement pas chercher un médecin ou jamais à l'hôpital. Donc ça, maintenant, nous traitons 40 000 patients par an. Nous avons un programme d'alphabétisation des femmes. Nous collaborons avec Bunker Roy du Collège des Vanupiers, le Barefoot College de Rajasthan, pour entraîner des grand-mères illettrées à devenir ingénieurs solaires. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez aller voir sur son site, Tilonia. Et donc aussi, collecte d'eau de pluie. On fait les paysans, il y a de la monoculture. Donc, les paysans cultivent soit du blé, soit du riz, puis rien d'autre. Donc, ils vont acheter, ce qui est paradoxal, leurs légumes et leurs fruits au marché. On dit, c'est complètement ridicule. Donc, on a fait d'abord 100 et maintenant 4000 kitchen gardens, c'est-à-dire des petits jardins. On leur donne les différentes semences nécessaires pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins sans acheter d'autres choses. Donc voilà, ici ce centre de santé qui est le noyau de toutes ces cliniques mobiles dans le nord de l'Inde, où on a aussi un traitement de la tuberculose, du sida, de la malaria, etc. etc. Donc, en Népal, nous avons construit 9 écoles en bambou jusqu'à il y a quelques années, chacune avec 2000 enfants. À l'époque, c'était 100 000 euros, c'est assez rentable. 2000 enfants, 100 000 euros en 3 mois. C'est pas mal. Au Tibet, ça c'est dans une région extrêmement reculée des Himalayas, dans la région de Umla, où il y avait très peu d'écoles, donc une école secondaire et 9 écoles primaires, qu'on essaie de remonter au niveau pour que quand ils arrivent à l'école secondaire, ils soient capables d'être au niveau. Donc il y a un pensionnat, une école. Au Tibet, environ une vingtaine de cliniques comme celle-ci, au travers de l'Est du Tibet. Un programme pour la mère et l'enfant, pour diminuer la mortalité à la naissance. Nous n'avons pas évalué ce programme, parce que nous savons que dans les mêmes conditions, dans une vallée au centre du Tibet, en 5 ans, la mortalité de la mère et de l'enfant est tombée de 30%. Nous avons appliqué exactement le même programme et formé plus de 1500 qu'on appelle des docteurs pieds aux pieds nus, des barefoot doctors, qui vont chez les nomades appliquer ces méthodes. Il faut des ponts, visiblement, voilà notre voiture. Il y a une route et il y a une rivière, mais on ne sait pas où ça commence et où ça finit. Donc 18 ponts, dont 5 ponts suspendus, 3 sur le Mékong, 1 sur le Yangtze et sur d'autres rivières qui viennent du Tibet. Des endroits pour les personnes âgées. Bon, souvent, ce sont des familles étendues, ils ne gèrent généralement pas les gens seuls, mais il y a des gens qui n'ont pas de famille, donc on s'occupe d'eux. Ça, c'est près de notre monastère à Sechen. Des écoles, maintenant pas mal d'enfants au Tibet. Il y a une sorte de joie à l'étude là-bas qu'on ne voit pas souvent ici, une sorte de privilège de pouvoir enfin étudier. Et puis, voilà, ces beaux paysages de l'est du Tibet, d'où je viens, j'étais il y a quelques jours. Et puis, nous avons notre petite Karuna Girl. Vous vous rappelez la photo de Stephen McCurry, la fille afghane. Et 20 ans plus tard, au prix de beaucoup de difficultés, il a pu retrouver la petite fille afghane devenue femme et mère de famille. Et moi, j'ai ma petite fille tibétaine. J'ai photographié il y a 8 ans dans une cuisine près d'une de nos cliniques. Et puis l'an dernier, j'ai pu réussir à la retrouver. Et bien, elle n'était pas très loin chez les nomades. Et aussi, elle va dans une de nos écoles. Et la voilà donc quelques années plus tard. Et donc, j'ai su son nom à l'époque. Et son nom, c'est Bel Océan de Turquoise. Donc, elle symbolise un petit peu nos activités et conclut un peu ce que je voulais partager avec vous. Merci.